BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue à la fois sur la chaîne YouTube de Tech & Co, sur BFM Business, le week-end à la radio, à la télé, sur l'appli RMC BFM Play, que vous soyez en podcast, audio ou vidéo, merci d'être là, c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end. Avec au sommaire cette semaine, dans un instant, toute l'actu tech de ces derniers jours, et puis juste après, Christophe Joly nous rejoindra, ça sera notre rendez-vous nostalgique avec aujourd'hui le grand livre des Galaxy S que nous allons ouvrir. Le grimoire des smartphones de Samsung. Ça fait quand même quelques années que ça existe, hein, les Galaxy. Et vous verrez qu'évidemment, grâce aux nouvelles technos et puis aux progrès technologiques, quand on commence à comparer le premier Galaxy S à celui qui est sorti il y a quelques mois, et notamment les pliants, eh bien, beaucoup d'eau a coulé sous les pompes. Ça sera tout à l'heure avec Christophe. Je vous rappelle le hashtag DQJMM pour réagir sur Twitter. Encore une fois, merci d'être là. Bienvenue dans De quoi je me mêle. Le club de la presse IT donc, avec aujourd'hui Laure Renoir, mesdames, messieurs. Bonjour Laure.
Bonjour, merci pour l'invitation.
C'est la première fois que vous entendez et écoutez Laure Renoir dans De quoi je me mêle. Chef de service mobilité au numérique.
Tout à fait.
Welcome, ma chère Laure.
Eh bien, merci.
Et en face de toi, Anthony Morel.
Salut, salut Laure, salut François, salut à tous.
Anthony qui est de retour, toujours un plaisir que de te retrouver mon cher Anthony.
Ah, mais plaisir partagé comme à chaque fois.
Voilà, les matins sur BFM Business, sur RMC Découverte et à la mi-journée sur RMC Story. Il est sur tous les médias du groupe, oui. Mesdames, messieurs, vous ne pouvez pas passer à côté d'Anthony.
Il me répand sur l'antenne.
Il se répand sur l'antenne, mais avec tellement de talent.
Oh.
Parce qu'il y en a qui se répandent, tu sais, pas forcément toujours. On va entrer un petit peu dans les détails.
Non, on arrête.
Alors dans l'actu, mesdames, messieurs, on va commencer par cette info qui a mis en émoi, tous ceux qui habitent la planète Terre, on est d'accord.
Hein, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Plus sérieusement, tous ceux qui sont abonnés à Netflix avec, vous le savez, ça y est, la fin de la récré qui a été signée par Netflix concernant le partage de comptes. La fête est finie. Anthony, alors juste un petit commentaire là-dessus. Énormément de réactions, moi sur Twitter, on en a parlé dans Tech & Co dans la semaine, mais ça a été une hécatombe.
Ouais.
Tout le monde se sent concerné, c'est chaud.
Se sont arnaqués en fait par Netflix, mais ce qui me semble fou, alors peut-être on y reviendra, moi je vais prendre la défense de Netflix, donc voilà, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais on y reviendra, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de réactions de gens outrés en disant, mais comment on nous oblige à payer alors qu'on payait déjà un service. En gros, je rappelle le principe, hein, on s'y attendait parce que ça faisait des mois que ça avait été annoncé,
oui.
Sauf que là ça arrive en France, c'est la
ils
fin
nous ont pas pris
du...
cours, quoi.
Non, ils nous ont pas pris de cours, ils l'ont fait préparé.
Ailleurs. Hein.
Vraiment, comment ?
Ils l'ont fait ailleurs, ils l'ont fait chez les pays voisins, donc voilà, on l'attendait.
Exactement. Espagne et Portugal, je crois.
Hein, ouais, absolument, et puis dans plein d'autres pays. Donc fin du partage gratuit du mot de passe pour les abonnés en France. Donc en gros, maintenant, si on veut squatter le mot de passe d'une famille ou d'un copain, il faudra payer 5,99€ par mois et on aura accès à Netflix sur un écran. Donc c'est moins cher qu'un abonnement classique, mais on peut plus squatter gratuitement comme c'était le cas jusqu'ici.
Et c'est le propriétaire du compte qui paie.
C'est ça, c'est le propriétaire du compte qui paie, exactement. Et alors,
je te coupe, c'est quand même assez complexe, leur règle du jeu, je trouve.
Compliqué.
On est d'accord.
Ouais, ouais.
T'es en Wi-Fi dans la maison, il n'y a pas de problème. Tu vas une fois de temps en temps dans ta maison de vacances, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'y vas pas trop souvent, là, il y a un problème. Enfin, c'est un truc. T'as l'impression qu'il te faut un dictionnaire Netflix pour savoir si tu peux bénéficier du partage de compte ou pas, non, Laure ?
La règle est assez claire, mais complexe pour le commun des mortels. Il faut revenir une fois par mois chez soi et se connecter au réseau Wi-Fi de la maison. Pour un petit peu pointer et bien signaler qu'on fait partie du foyer, puisque c'est la règle, faire partie du foyer.
Mais attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Admettons qu'on ait une résidence secondaire. Ce n'est pas un truc de fou, ok ? On a une télé qui est connectée sur un compte Netflix, le compte principal, d'accord ?
Mm-hmm.
Je ne vais pas prendre ma télé pour la ramener à mon domicile.
Avec un effort.
Dans le TGV, je ne vais pas prendre ma télé pour la ramener et pour la connecter une fois par mois à mon domicile.
Alors, c'est ça pour les smartphones, hein, pour les smartphones, les tablettes, les choses comme ça. A priori, il va quand même comprendre ce service qu'on a plusieurs endroits qui vont servir de maître à la connexion.
Ouais. Moi, je pense que ce sera un truc adaptable et je pense qu'ils sont... entre guillemets, flou volontairement pour que ce système de bannissement soit relativement soft. C'est-à-dire, en gros, ils veulent faire en sorte que les passagers clandestins payent, mais que les gens qui, effectivement, parce que tu as raison, il y aura toujours des cas un peu d'exception, ou alors des gens qui partent en voyage plus d'un mois.
Mais c'est des grosses exceptions, tu vois. Enfin, je veux dire, tu pars en vacances régulièrement, tu as une résidence secondaire, voilà, tu as un compte Netflix que tu payes, tu payes 20 balles par mois, hein, quand même.
Ouais, hein, mais là, ils visent le cousin qui t'a emprunté une fois ton code Netflix et qui s'est jamais signalé ensuite, l'ex un peu indélicat qui a un petit peu oublié de préciser qu'il a aussi gardé la connexion.
Je pense que la guerre va être relancée entre les anciens couples.
Tu sais, les amis que t'as pas vus depuis des années qui se signalent, mais t'as changé de mot de passe.
Ouais, c'est
voilà,
vrai.
Mais c'est eux qui sont visés.
Bien sûr.
Et quand même, Netflix estime à 100 millions les comptes qui sont partagés.
Ouais, c'est ça.
Ça fait un manque à gagner assez important pour eux.
Non, et puis attends, c'est quand même, c'est pour ça que je dis, je vais me faire un peu l'avocat de Netflix. J'ai pas d'action chez eux, je m'en fous, hein, c'est pas la question. Mais je veux dire, on le sait tous. Je me mets dans le sac d'ailleurs.
Petit cousin de Reed Hastings.
Oui, c'est ça. spoiler alert, je vous le dis. Transparence totale. Non, blague à part. On le sait tous quand on squatte le compte, que ce soit Netflix, Amazon, parce que souvent il y a des petits arrangements, c'est je paye Netflix, toi tu payes Amazon et puis on se partage les connexions et tout. On sait tous qu'on joue en fait sur la ligne jaune, blanche ou grise, je sais pas comment on dit, mais enfin qu'on est à la limite de la légalité, c'est-à-dire qu'on accède à un service sans avoir payé pour ce service. Donc là finalement, c'est un retour à la logique. En gros, Netflix a dit, bon, on a toléré cette pratique pendant des années parce qu'on était en croissance, que tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Là, on voit que la croissance commence à arriver à un plateau. Il faut qu'on continue à financer nos séries. On a 100 millions de passagers clandestins. Il y a un moment, les gars, il faut passer à la caisse. Moi, ça ne me choque pas qu'on demande que des gens qui ne payaient pas un service auquel ils avaient accès gratuitement, alors que c'est un service payant, eh bien, doivent à un moment payer. Mais c'est vrai que la règle n'est pas incroyablement claire. Je pense que c'est fait exprès.
Oui, et puis pendant des années, même Netflix communiquait sur cette largesse et sur cette générosité.
Quand même leur fonds de commerce, ils se lançaient, et pour encourager les gens aussi à adopter le service,
ouais, partagez
ils
vos
publiaient
comptes.
Des petites choses du type « l'amour, c'est partager son mot de passe ».
Oui, « peace and love », quoi.
Donc voilà, allez-y, allez, venez tous à la maison, et maintenant que vous êtes arrivés, hop
ouais. Ça, c'est ça fait un peu penser.
Un peu cruel.
On dirait que t'es rentré dans un piège à rats, tu sais, et t'es bloqué, et hop là.
C'est fini. Non, mais attends, après, si les gens sont pas contents, ils ont aussi le droit d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs.
Non, mais c'est clair.
C'est pas ce qui manque.
C'est clair. Hein, donc mais je pense que Netflix doit surveiller ça de près, parce que ce type d'annonce qui est quand même un tremblement de terre hein, dans l'offre, dans le paysage de la SVOD. Je pense que les indicateurs de Netflix, là, vont être surveillés, mais à la loupe. Parce qu'ils risquent d'avoir des gens mécontents, simplement. Parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a énormément de concurrence hein, dans le monde de la SVOD. Les Disney+, les Paramount, les MyCanal en France, enfin, etc.
C'est la beauté de la concurrence. Si t'es pas content du service de Netflix, si tu estimes que ça te coûte trop cher, c'est pas comme à l'époque avec les opérateurs télécom où t'étais engagé pour 24 mois et que tu pouvais pas sortir. Là, c'est en deux clics, tu sors et tu peux aller voir ailleurs. Donc, tu as le choix de faire ça si t'es pas content. Et puis sinon, tu te désabonnes à Netflix. Enfin, c'est un jeu libre hein, pour le coup. Il n'y a pas d'obligation. Netflix, c'est pas un bien vital. Tu vois, il n'y a pas besoin de Netflix pour vivre. Donc voilà, on accepte les règles.
On en a pas besoin pour vivre, mais le week-end, c'est cool quand même.
C'est quand même apprécié.
Non mais ça manque. La concurrence ne manque pas, je veux dire.
Les autres sont quand même beaucoup plus souples puisque finalement c'est le seul service qui impose cette limite de partage de mots de passe.
Ouais, jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui, ça peut faire des émules.
Voilà.
On verra.
Disney Plus, qui est aussi très large,
pour l'instant,
dans le partage de comptes, etc., va continuer. MyCanal aussi. Hein, on peut avoir
bien sûr
comptes. Et d'ailleurs, les publicités de MyCanal, il n'y a pas si longtemps, communiquaient là-dessus, hein, sur les partages de comptes.
D'ailleurs, le partage de comptes Netflix est intégré à certaines offres Canal, justement.
Tout à fait.
Ça ne va pas être possible. Hein, c'est pas possible avec les offres qui sont intégrées à des packs. Donc, c'est quand même un peu compliqué à maîtriser.
C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Je trouve que c'est... En fait, nous, on est là-dedans. Donc déjà, nous, on ne comprend pas. Enfin, moi, il y a des trucs, il y a des zones d'ombre. Si tu veux, il y a des angles morts dans cette communication.
C'est
vrai. Nous, on est dedans. Alors, j'imagine ma mère, des gens qui ne font pas gaffe à ça, c'est compliqué quand même. Hein.
C'est vrai. Tu n'as pas le droit de partager ton compte avec n'importe quelle de tes offres. C'est pas valable avec la moins chère, c'est pas valable avec la deuxième moins chère, c'est pas valable pour trop de personnes, c'est deux max. Bref,
la petite limite du truc aussi, le moyen, le cheat code entre guillemets pour pouvoir continuer à squatter, c'est qu'en fait, comme c'est une fois par mois, tu es censé te connecter, si c'est un ami ou de la famille qui squatte ton code entre guillemets, il suffit qu'il vienne chez toi une fois par mois et qui se connectent. Et c'est bon, en fait. Et c'est reparti pour un mois.
Oui, qui se connectent sur un device mobile.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Ils se connectent sur un device mobile.
Bon, on verra. Mais avec les télés, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Si tu as une télé, dans la résidence secondaire, et t'es chez toi, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas être obligé d'envoyer ta taxe d'habitation à Netflix pour prouver que tu habites là-bas.
En vrai, je pense que c'est ça. Je pense que, à mon avis, c'est pour ça que je te disais qu'il y avait un système qu'ils allaient être souples. En gros, le but... À mon avis, dans leur stratégie à eux, c'est vraiment, comme le disait Laure, de taxer les 100 millions de passagers clandestins, mais les autres, quand même, d'être relativement souples avec eux. Et donc, ça va être, oui, tu pourras assez facilement, en leur envoyant un mail, en disant, non, mais c'est ma résidence secondaire, peut-être que oui, je leur envoie un justificatif de domicile, et c'est bon, quoi. Enfin, tu vois. C'est peut-être pas plus compliqué que ça, en fait.
On verra. Bon, on verra bien tout ça, et puis Je pense aussi qu'il y a derrière une stratégie assez maligne de la part de Netflix, c'est que tous les gens qui vont être victimes de ce bannissement, de ce partage de compte, vont peut-être aller vers l'offre payante qui est au même prix, qui est à 5,99 avec publicité. Et on sait que ça commence à bien cartonner.
Oui, ça marche bien, ils sont très contents de cette offre-là. Après, c'est 5 minutes de publicité à peu près par heure.
Mais tu payes 5,99.
Mais c'est un petit prix.
Voilà. Voilà. Mais t'as pas la 4K, par exemple. Tu vois, tu
non,
perds
c'est
en 720p, fait les avantages.
Hein.
C'est une offre dégradée.
Alors, ils sont passés en 1080.
Oh, pardon, j'ai raté ça.
C'est plutôt une bonne nouvelle, mais t'es pas en 4K. Bon, voilà pour les partages de comptes. Je pense que ça va continuer à jaser tout le week-end. Je crois que ça se met en route mardi prochain.
Oui.
C'est ça, hein.
C'est oui.
On va voir,
ça.
On va surveiller de près.
Ne m'insultez pas dans les commentaires, s'il vous plaît.
Oui, tous les cas particuliers vont s'exprimer de toute façon. Hein.
Oui, je pense. Mais ça va être intéressant de voir comment Netflix entame ce virage qui est quand même assez impopulaire. Dans l'actu, alors, ça c'est tout frais, puisque c'est tombé il y a quelques heures, puisque je vous rappelle qu'on enregistre ce De Quoi Je Me Mêle le jeudi et que ces annonces Sony sont tombées dans la nuit de mercredi à jeudi. Sony qui a annoncé pas mal de nouveautés à l'occasion d'un showcase qui s'appelle le PlayStation Showcase. Ils ont annoncé, par exemple, un Spider-Man 2, un Resident Evil 4K VR. Enfin, il y a plein de trucs plutôt sympathiques.
Ça va donner Resident Evil en VR, ça va être pas mal.
On va plus dormir. Hein.
Ouais, là, on va plus dormir. Ouais. Déjà que Resident Evil sur PlayStation 1, à l'époque, ça me faisait... je pouvais plus dormir, donc en VR, laisse tomber.
Ouais, ça va être... c'est pas le partage de comptes, ça, c'est le partage de membres, quand on occupe tout le monde dans le truc. Et donc, parmi toutes ces annonces, une annonce qui n'est pas passée inaperçue. On en avait parlé dans De Quoi Je Me Mêle d'ailleurs il y a quelques temps de ça parce que c'était une rumeur. Ouais. C'est confirmé, on va avoir une console portable PlayStation.
C'est ça, la fameuse PS5 portable qu'on attend depuis qu'une sorte de serpent de mer. Il y avait beaucoup, beaucoup de rumeurs. Alors, qui s'appelle officiellement le projet Q, comme la lettre. On dit console portable.
Attention, voilà. Les amis, parce que petite déception quand même.
Ouais, c'est ça. En fait, alors le form factor, je le trouve génial. C'est en gros, ce sera une manette, une DualSense avec un écran LCD au milieu. Donc vraiment, le format est très très sympa. Mais quand on dit console, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que ce sera en réalité une sorte d'écran déporté qu'on pourra utiliser n'importe où on a une connexion internet, mais qui passera par la PS5. Donc ça veut dire qu'il faudra avoir une PS5. Première chose, et il faudra même que la PS5 soit à minima en veille ou en fonctionnement pour qu'on puisse l'utiliser à distance. Donc voilà.
Donc on peut l'utiliser à distance.
On peut l'utiliser à distance.
Par exemple, tu as une PlayStation à Paris, tu vas à Marseille, ouais. Tu passes ton petit week-end là-bas, tranquillou, tu as une connexion Wi-Fi.
Oui, de ce que je comprends, ça fonctionnera par le Remote Play. C'est du cloud gaming, en fait. Et donc, tu pourras l'utiliser. Je prends des pincettes parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations.
C'est un petit peu fou, cette affaire.
Voilà. Mais j'imagine quand même que c'est ça qui vise. Parce qu'on ne peut pas imaginer que cette console ne fonctionne que chez toi. Parce que ça me ferait penser à la Wii U.
Ah, la Wii U, mais oui.
Est-ce que vous vous souvenez de ce truc-là incroyable de chez Nintendo? Alors bon, avec le recul, ils étaient un peu visionnaires. Hein. C'était il y a quasiment 10 ans, cette console qui était livrée avec une espèce d'énorme manette, là, avec un écran au milieu, qui, quand tu jouais sur la télé, affichait des informations complémentaires. Mais tu pouvais aussi éteindre ta télé et là, avoir le jeu de la console chez toi en Wi-Fi, par exemple dans ta chambre et tout, mais ça marchait jamais.
C'était l'énorme pari de Nintendo, mais ça a été leur plus gros échec. Après, ça a donné la Switch dans une version beaucoup plus avancée et un peu différente, mais ça a été peut-être l'échec nécessaire pour arriver à la Switch, mais ouais, c'était pas forcément une grande réussite la Wii U, clairement. J'espère pour Sony que ce sera beaucoup, beaucoup mieux que ça, mais bon, j'en doute pas.
Laure, ça te fait rêvé cette console portable
PlayStation ? J'ai pas encore de PS5, donc je regarde ça avec un petit peu de distance. Mais je trouve ça assez intéressant. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas de port pour carte SIM 5G, donc on est quand même connecté en Wi-Fi pour utiliser ce service. Donc il faut quand même une connexion de bonne qualité. Sinon, ça va laguer, il va y avoir de la latence, ça va être un peu compliqué à utiliser. Donc ça pose plein de questions techniques, ouais. À mon sens.
C'est vrai.
En plus, on n'a pas le prix, donc on ne sait pas si ce sera abordable ou pas, cette affaire. C'est quand même encore un petit peu flou.
Ouais, et puis donc, c'est ce que tu disais, justement. C'est-à-dire que dans les transports, c'est cuit, quoi. Là,
bah, avec
l'avion...
le Wi-Fi de la SNCF, t'es pas forcément très bien, quoi.
Avec ton partage de connexion, peut-être.
Pardon,
mais
bon.
T'es pas prêt de gagner à FIFA, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu vois, tu te lances une partie.
T'auras des excuses si tu perds.
Oui, c'est pas mal.
C'est bien.
Je suis dans le TGV.
Ouais, je suis dans le TGV, les gars. Soyez indulgents. Je pourrais jouer une fois à peu près par heure.
J'ai une latence de malade, donc désolé. Oui, je me suis fait tuer 25 fois en 2 minutes sur Call of Duty, mais bah voilà.
Ouais, mais ça, enfin, on voit que c'est pas gagné cette console, parce que autant tu vois une console portable, moi la Switch, j'adore jouer dans les transports, quand je prends le TGV ou l'avion, tu vois, c'est top. Là, c'est cuit. Tu pourras pas jouer parce que c'est du cloud gaming. Il faut forcément une bonne connexion Wi-Fi avec peu de latence. Donc c'est...
Ouais, c'est vrai, ça va être l'une des limites. Bon, attendons quand même
on va voir. Informations.
Moi, je veux rester enthousiaste parce que
oui,
vraiment, encore une fois, les images qu'on a eues, le côté la DualSense avec l'écran et tout, je trouve ça vraiment hyper sympa.
L'ergonomie a l'air hyper soignée.
Ouais.
Ils n'ont pas parlé de la qualité de l'écran, donc je ne sais pas trop si on aura un écran Full HD, 4K, je ne sais pas. On n'a pas d'autonomie non plus.
J'espère
on
qu'avec
sait pas
Sony,
trop
quand même, qui est un professionnel de l'image et de la vidéo, on aura un bel écran.
Alors si, attends, on a quand même, ce serait 1080p jusqu'à 60 fps, écran LCD 8 pouces tactile.
Ouais, 8 pouces.
LCD ?
Ouais.
Ils auraient pu mettre de l'OLED quand même. Hein,
écoute, c'est pour l'instant, c'est ce qu'on a. Hein, donc,
okay, bon.
Une fois, tout sera. Tout
et
ça
on
sera
sait confirmé. Quand. On n'a pas de prix, bien sûr. Hein,
non,
faut
y a
pas
rien,
rêver.
Y a rien.
Et on ne sait même pas quand est-ce que ça sort.
Ouais, non, on a vraiment.
Il n'y a pas grand-chose hein, là-dessus. Bon, bah, écoutez, on va voir. On va suivre ça de près, mais on voulait vous en parler parce que c'est quand même un petit émoi dans le monde du jeu vidéo. Apple, tiens, alors on se rapproche de la date fatidique du 5 juin et visiblement, on devrait avoir droit à ce masque de réalité mixte. Hein,
on espère.
Voilà. On espère vraiment.
S'il n'y a pas, ce sera la grosse déception parce qu'on l'a tellement teasé pour le 5 juin.
Là, oui,
wow.
J'espère que Apple ne nous décevra pas parce que moi, j'ai prévu un Tech & Co de 2 heures là-dessus. Donc,
sinon, il va falloir sortir les RAM. Hein. Je le dis
je compte sur toi.
Oui, c'est d'ailleurs. Ça. Je serai là
si
aussi.
Tu peux venir avec ton Zodiac.
Ce sera, oui.
Ce serait peut-être pas mal.
Parce qu'ils ont intérêt à annoncer un truc.
Hein, s'il te plaît, Tim, ne nous déçois pas. Ouais. Hein, parce que si c'est pour nous annoncer de nouveaux emojis pendant la WWDC, on va avoir du mal à faire les 2 heures de Tech & Co là-dessus. Non, mais enfin, on plaisante, mais je pense que ce masque va arriver. Mais tu voulais nous parler en fait de la conséquence de tout ça. C'est-à-dire que Apple, qui est une boîte hyper secrète, joue en fait de malchance. Et plus on a l'impression que plus ils essaient d'être secrets, plus ils ont des fuites.
Ouais, exactement. Alors il y a eu deux histoires là, cette semaine qui sont assez incroyables, complètement différentes, mais qui se sont passées chez Apple et des histoires de fuites. Alors une... assez rigolote encore que, l'autre un petit peu plus sérieuse. On va commencer par celle qui est un peu plus légère, entre guillemets. Vous avez peut-être suivi ce compte Twitter Analyst941. C'est un compte Twitter qui était extrêmement, extrêmement bien informé sur les infos Apple. Mais quand je dis bien informé, c'est qu'il te sortait toutes les infos hyper précise avant l'arrivée des produits, que ce soit sur les derniers iPhone 14, sur iOS 17, sur les dernières Watch, enfin vraiment des trucs extrêmement, extrêmement fins. Et en fait, apparemment, alors ce compte a fait ses adieux, a dit bah, en fait, ma source a été découverte en interne chez Apple à la suite d'une enquête et a été virée. Donc c'est pour ça que je disais c'est plus léger, mais enfin c'est moins léger pour la personne qui a été virée, évidemment.
La personne a joué aussi. Avec
elle a joué, elle a pris son risque, hein, comme on dit.
Je pense que quand tu arrives chez Apple, tu dois signer un contrat de confidentialité. Il doit faire 12 pages.
Mais visiblement, en fait, c'était la sœur de la personne qui tweetait et elle a eu la mauvaise idée de le dire dans ses tweets. Donc en gros, Apple a commencé à resserrer un petit peu l'étau. Et alors l'enquête qu'ils ont menée, alors c'est ce que dit, encore une fois, ce compte qui a fermé depuis. Donc c'est à prendre avec des pincettes, c'est évidemment pas des informations officielles de chez Apple, mais ce qu'ils ont fait visiblement en interne, c'est que donc ils savaient que cette personne travaillait dans l'équipe de Craig Federighi, c'est le patron du logiciel et tout ça chez Apple. Et donc ils avaient des doutes sur une personne. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des fausses informations, c'est-à-dire sur la sortie d'un futur produit. Je crois que c'était une version de Final Cut, et ils lui ont donné une mauvaise date. Ils lui ont dit ça va sortir,
En
mars 2024. Et en fait, ils ont, la fuite s'est retrouvée en fait sur Internet. Donc, ils savaient précisément.
Très bonne technique, hein.
Ah, c'est une super bonne technique. Mais en fait, ça valide ce que moi je croyais relever de la légende. C'est, on sait que Steve Jobs faisait ça. Enfin, Steve Jobs, en tout cas, il y a toujours cette légende selon laquelle il faisait travailler les ingénieurs sur des faux produits pour savoir d'où sortaient les fuites. Et en fait, alors je ne sais pas si lui
il
le faisait.
Il en fait des leurres aussi, en quelque
exactement.
Sorte.
Et là, c'est en fait Apple fait réellement ça, et ça a mené donc à retrouver cette taupe, à l'identifier. Et donc à la licencier.
Donc il a dû passer un mauvais quart d'heure, je pense.
On n'a pas la suite, hein, parce que le procès qui va suivre va sûrement être sanglant.
Parce que je pense que le licenciement, c'est que le premier acte.
Voilà, c'est la première étape. Hein.
D'une longue série Netflix.
Comme tu le disais, les accords de confidentialité derrière doivent prévoir des sanctions assez, assez pénibles.
Tu m'étonnes.
Ça permettra, enfin, ça empêchera pas d'autres fuites sans doute. Hein.
Non.
Mais en tout cas, voilà, on voit que Apple travaille là-dessus. Mais c'est compliqué. Hein.
Ah, mais c'est compliqué très pour compliqué. Eux, hein. Bah, Tim Cook a lancé il y a un an à peu près une grande campagne pour débusquer les traîtres, si l'on peut dire, parce qu'il y a tellement de fuites. Enfin, on est bien placé pour le savoir, nous, journalistes tech, parce que maintenant, dès qu'il y a une keynote Apple, alors peut-être à l'exception de celle du 5 juin, où il y a encore une grosse incertitude, mais très souvent, on sait, quasiment au composant presse, qui va sortir.
Apple n'est pas le seul touché. Hein, le paysage de la tech est absolument grevé par ça. Ils se font tout le temps lancer leurs informations avec un peu d'avance. C'est extrêmement frustrant pour les marques. On a des fiches techniques d'à peu près tout, en fait, avant la sortie des produits.
C'est parce qu'il y a aussi
des petites taupes un peu partout. Hein.
Voilà, c'est ça. Il y a des fournisseurs, il y a des sous-traitants. Oui, oui. C'est vrai que Apple, du temps de Steve Jobs, les secrets étaient un peu plus faciles à garder parce que cette chaîne et cet écosystème était moins étendu qu'aujourd'hui.
Moins
énorme.
Moins scruté aussi par les médias. Il y a 20 ans ou 25 ans, tu vois, quand t'es sorti le premier iPod, tout le monde s'en foutait, quoi.
Enfin, ouais, mais même du temps quand même où Steve Jobs était encore vivant et où t'as eu les premiers iPhones. Enfin, moi, je me souviens quand on allait aux conférences d'Apple, c'était la surprise totale. C'est-à-dire qu'on savait vraiment, enfin, tu savais à peu près de quel produit il s'agissait, mais c'était tout. Hein. Aujourd'hui, tu sais quasiment tout. Hein. Mais c'est pas pour critiquer Tim Cook ou quoi. Je pense que c'est vraiment.
Non, mais et puis c'est ingérable. Compliqué. Comme tu dis, ils ont tellement de sources d'informations. Bah, alors, il y a Mark Gurman, bien sûr, qui est là. Il y a aussi Ming-Chu Kuo qui balance tout le temps des informations parce que ces gens-là, en Asie, ont sans doute des contacts, tu vois, qui fabriquent les produits. Et quand tu fabriques les produits, au bout d'un moment, tu es obligé d'avoir.
Tu sais, hein, forcément.
Tu sais qu'en interne, ils ont même une division qui est composée d'anciens du FBI, de la CIA, de la NSA.
T'as la mecs... cellule.
Ouais.
La fameuse cellule d'enquête.
T'as la cellule de la NCIS, tu sais.
Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Et donc, qui est censé vérifier tout ce qui se passe, etc. Mais pour limiter les fuites. Et pour limiter, alors c'est l'autre histoire, si on a le temps d'en parler rapidement.
Ah oui, bien sûr.
C'est,
qui est plus grave, quand même.
Qui est plus sérieuse, je pense, encore pour Apple, qui est pour le coup du vol de secrets industriels. Et là, c'est une histoire assez rocambolesque, donc d'un ingénieur chinois qui est accusé en fait d'avoir volé une partie des secrets industriels d'Apple et d'être parti en Chine avec. Donc en gros, il est embauché chez Apple, ce gars, en 2016. L'histoire sort que maintenant, parce que l'enquête a pris du temps. C'est le département américain de la justice qui sort ça. Il bosse un an chez Apple. Et pas n'importe où, ils bossent dans la fameuse, c'est projet Titan là.
Les Apple Cars.
Et voilà, les fameuses voitures autonomes. Enfin bon, bref, le serpent de mer absolu de la tech, donc truc ultra secret.
Mais bon, tout ça nous prouve que ça existe.
Ah oui, alors c'est ça.
Oui, c'est écrit noir sur blanc dans le dossier qui est publié par le fantasme.
Apple travaille depuis des années sur un concept de mobilité, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est du logiciel, si c'est une voiture, mais il y a quelque chose en tout cas.
En tout cas, cet ingénieur chinois, lui, il est au courant, il a tout. Et en fait, le truc, c'est qu'il démissionne au bout d'un an, bon ça peut arriver, mais on va se rendre compte qu'en fait, 4 mois plus tôt, il avait signé un contrat de travail pour une entreprise chinoise.
Donc quatre mois plus tôt, alors qu'il était toujours chez Apple.
Il était toujours chez Apple, et que pendant ces 4 mois, bah, en fait, il a siphonné des infos chez Apple et qu'il les a ramenées chez lui. Donc un jour, la police se pointe chez lui, fouille son ordinateur et son disque dur externe, trouve toutes les infos.
Mais ça, où, en Chine ou aux États-Unis?
Non, aux États-Unis. Et en fait, alors c'est là, on n'a pas tous les détails de l'affaire. Je me dis, ils ont pêché quand même.
Parce qu'il n'est pas retourné en Chine.
Alors c'est ça. En fait, le truc, c'est que le jour où la police trouve tout ça, le mec dit non, mais moi, j'ai pas l'intention de quitter le territoire. Donc les mecs ont dû le croire, je sais pas. Évidemment, le mec, le soir même, il est parti en Chine. On le reverra jamais, si tu veux. À part si la Chine se décidait à l'extrader. Enfin, je pense que c'est très, très, très peu probable.
Ouais, quand on connaît les relations.
Voilà, ça va pas les arranger, d'ailleurs, les relations commerciales. Et donc, maintenant, il bosse chez un. Alors, il a bossé dans plusieurs entreprises, mais là, il bosse dans une joint venture entre Baidu, donc le Google chinois, et Geely, qui est un grand constructeur automobile. Donc, c'est assez cohérent avec les secrets qu'il a emportés avec lui. Et ce qui est encore plus dingue, ce qu'on pourrait dire, bon, à la limite, c'est un fait divers, mais c'est que c'est arrivé 3 fois à Apple en un laps de temps très court. Ouais. 3 ingénieurs chinois, Et les trois fois, c'était dans la division voitures autonomes d'Apple. Donc tu te dis, il y a
c'est
quand même un problème.
C'est celle qui aussi maintient le plus de secrets, donc qui aiguise forcément les curiosités.
T'as raison. Enfin, t'as raison.
Voilà. Ouais. La téléphonie, un peu moins, hein, forcément. C'est davantage, c'est plus homogène. Voilà. Il y a trop de mystères.
Ouais.
Rendez-vous le 5 juin, bien sûr. Alors, sur le site Tech & Co, sur la chaîne Tech & Co, dans Tech & Co, sur BFM Business tous les soirs, l'émission que j'ai le plaisir de vous présenter. Puis j'imagine que tu feras l'écho de tout cela, évidemment, dans tes chroniques.
Et si,
dans
si les annonces sont suffisamment intéressantes.
Et dans De Quoi Je Me Mêle, bien sûr, si les annonces sont assez intéressantes. On croise les doigts.
Oh ouais, Anthony. Tu m'étonnes.
Mais parce que tu vas commenter la keynote.
Il paraît, oui.
Avec moi.
Bah, avec toi, évidemment. Ouais.
Ça va être cool. Ça va être cool, ça va être bien.
Ouais.
18h50 environ, ce sera le 5 juin.
Ouais, on en rigole, mais c'est hyper, hyper enthousiasmant. C'est vrai qu'on est tous excités.
Bah enfin, un peu de nouveauté, hein. Ça fait plaisir. Exactement. Là, on est tous dans le même bateau.
Ouais. Dans l'actu aussi, eh bien, c'est le Festival de Cannes, vous le savez, qui bat son plein avec sa dose de stars, de Leonardo DiCaprio à Harrison Ford, Martin Scorsese, ovationné pendant 9 minutes, de Apple TV, Tim Cook qui a monté les marches. Enfin voilà, donc son lot de strass et de paillettes tout à fait glamour. Mais de l'autre côté, eh bien voilà, il y a les menaces. Alors les années précédentes, c'était la menace de la SVOD, on s'en souvient. Hein, Festival de Cannes qui menait la guerre contre les services à la Netflix, etc., etc. On a l'impression que ça se calme un petit peu. Mais maintenant, l'autre guerre, c'est l'intelligence artificielle qui va débouler dans ce secteur. Hein, de la création audiovisuelle et qui voilà, va sans doute chambouler pas mal de choses.
Va tout révolutionner comme dans tous les secteurs et en témoigne d'ailleurs, alors là on parle de Cannes, mais de l'autre côté de l'Atlantique, tu as la grève des scénaristes à Hollywood qui dure depuis... qui continue d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises.
Ça fait 3 semaines à peu près.
Ouais, c'est ça.
Ça fait écho à la grève mythique de 2007, elle avait duré 100 jours, ça avait coupé les saisons des séries Breaking Bad, Lost, tout ça.
Il y Grey's avait des Anatomy, saisons de... on n'avait même plus de Grey's Anatomy, c'était un enfer quoi.
Ça c'est dur.
Tu suis Grey's Anatomy toi. Ah, c'est ton petit péché mignon.
Alors moi maintenant, c'est le moment parce de que ça commence à me saouler, mais à l'époque j'aimais beaucoup Grey's Anatomy.
Ok. Ouais.
Et ben les saisons avaient duré quoi, 10 épisodes au lieu de 20.
C'était, ouais, c'est ça.
C'était terrible. Alors moi je suivais pas cette série là, mais pour d'autres c'était quand même extrêmement frustrant et ça avait duré 100 jours. Et là on s'achemine quand même vers une situation un peu identique. Pas seulement pour des problèmes de salaire, mais aussi pour des problèmes de statut. Parce que la question de la propriété intellectuelle au sein de la création de scénarios, elle est complètement au cœur de la revendication. Quid de l'IA? Si on crée des scénarios par IA, qui est responsable? Comment on est payé? Enfin voilà, pour eux, c'est très compliqué.
Absolument.
Ouais, c'est un sujet complexe qui touche tous les métiers, hein, évidemment, de la création.
Là, puis surtout, j'allais dire, alors je comprends très bien leurs revendications et je me dis que c'est presque déjà trop tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces outils-là, ils font déjà partie du processus créatif. C'est-à-dire que clairement, on a tous essayé sur ChatGPT ou autre, écris-moi une fin alternative à Game of Thrones, écris-moi, moi je lui ai demandé d'écrire une scène de ma sitcom préférée qui est Seinfeld, voilà, qui est une sitcom mythique américaine. Et franchement, j'avais trouvé le résultat pas incroyable, mais très probant. Et en fait, c'est un peu ça dont ils ont peur. Les scénaristes, ils ont pas peur qu'on les remplace complètement, mais ils ont peur finalement de devenir des subalternes de la machine. C'est-à-dire qu'en gros, un studio qui a une idée de film, il demande à la machine de dégrossir le boulot, d'imaginer un scénario, et finalement, le rôle de l'humain ne serait plus que d'aller finalement affiner, peaufiner, corriger les erreurs. Et en fait, c'est évidemment beaucoup moins valorisant, sûrement beaucoup moins bien payé aussi d'ailleurs.
C'est quand même au cœur de la revendication aussi.
Ben oui.
Si on en fait moins, on est moins payé. Et déjà qu'ils sont certainement mal payés, c'est compliqué pour eux.
Je ne sais pas s'ils sont mal payés quand même.
Bah, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Hein.
Oui, bah, ça c'est les syndicats, c'est normal.
Ouais, bien sûr.
Ils sont mal payés. Mais... ils ont
si tu vois un syndicat qui dit qu'ils sont bien payés.
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est vrai qu'on... Le paradoxe, c'est que ces scénaristes n'ont jamais autant travaillé parce qu'il n'y a jamais eu autant de séries. On est d'accord. Depuis l'arrivée de la SVOD, avant, tu avais les grands networks américains, les ABC, les NBC, etc., qui commandaient des grandes séries américaines, et puis tu n'avais pas encore Netflix et tous ces trucs-là. Maintenant, ils sont débordés de travail. Mais ce qu'ils disent, c'est que finalement, ils sont moins payés qu'avant parce qu'il y a plus de contenu à faire. Enfin voilà. Donc,
ouais, absolument.
Et puis il y a l'IA, bien sûr, c'est ce que vous disiez.
Et puis l'IA, c'est aussi l'autre question pour eux, c'est de dire, est-ce que finalement, tout ce qu'on a écrit jusqu'à présent et tout ce qu'on écrit, ça ne va pas servir à entraîner ces algorithmes, si tu veux. Et donc, en gros, on travaille pour l'IA, quoi, si tu veux. Et ça, on devrait être payé pour ça. C'est-à-dire que l'IA, quand elle utilise notre matériau de base, notre matériau source, et qu'elle le régurgite sous une autre forme en inventant quelque chose d'autre, bah nous, on devrait être payé pour ça. Et ce qu'il réclame, c'est finalement que l'IA soit traitée, en tout cas en termes de droit d'auteur, comme un outil de travail, c'est-à-dire comme un traitement de texte ou un stylo, et non pas comme l'équivalent d'un être humain. Ce qui commence à voir le jour, on en avait parlé d'ailleurs dans De quoi je me mêle il y a quelques mois, de ce court-métrage d'animation que Netflix avait publié et qui avait été conçu entièrement, enfin tous les décors avaient été conçus par une IA, et l'IA a été remerciée dans le générique, c'est merci, enfin intelligence artificielle, nan, nan, et tout. Enfin ouais, donc on arrive, en fait, on se dirige vraiment vers ce monde-là. Donc je comprends que cette corporation se défende, comme beaucoup d'autres corporations.
Elle se sent dévalorisée, évidemment.
Mais c'est la première grève anti-IA de l'histoire, à ma connaissance.
Oui,
c'est ça qui est, c'est peut-être un truc historique, en fait.
Ouais, c'est la première guerre contre une machine.
C'est
finalement.
Ça. Ouais, absolument.
C'est
absolument.
Fou. Hein.
Non, c'est là encore, on est sur des thématiques un peu vertigineuses.
Mais dans quelques années, en fait, tous les scénarios sont fabriqués par l'IA, sauf peut-être, enfin, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte, parce que parfois il y a même de la créativité dans ces trucs-là, tu vois. Et puis en plus, tu peux lui dire, crée-moi un scénario d'un, je sais pas moi, dans l'espace d'un film de science-fiction qui s'adresserait plutôt aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de 25 à 45 ans. Enfin, je veux dire, on peut aller très loin dans le fine-tuning marketing de scénario, quoi. C'est
absolument.
Ça qui est
fou. Non, c'est absolument. Il y a un vrai sujet sur les thématiques artistiques. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut finalement garder une valeur ajoutée, nous, en tant qu'être humain.
Ouais, ouais.
Et alors, c'est assez marrant parce qu'il y a une étude là, qui est parue de l'université d'Amsterdam, qui montre que quand on regarde une œuvre, nous les humains, qui a été créée par une IA, si on sait qu'elle a été créée par une IA, eh ben, ça diminue sa valeur à nos yeux.
Mais bien sûr.
Tu vois, donc on a quand même envie qu'il y ait de l'humain, quoi, si tu veux. Mais sauf que.
Mais je pense que ça, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude aujourd'hui. Mais demain,
Peut-être.
Ouais. Bon, on verra pas la différence et on l'acceptera. Ouais, je pense.
Les prochains Marvel seront peut-être générés par une IA.
Mais quelle belle transition. C'est magnifique.
Oh
là là,
c'est un métier.
Ce métier, ce professionnalisme. Et oui.
Attends.
Alors parle-nous maintenant des Gardiens de la Galaxie.
Allez,
3.
C'est parti. Mais oui, alors c'est le film à proprement parler, moi je ne l'ai pas vu encore. J'ai beaucoup aimé les Gardiens de la Galaxie. Je veux aller le voir, je sais pas si vous l'avez vu vous les amis, mais ce que j'ai lu, c'est que dans le film, il y a un objet technologique qui est une des stars du film. Qu'on avait tous oublié, je pense, c'est le Zune.
Et je pense que surtout Microsoft qui l'avait oublié.
Oui, qui voulait qu'on l'ait oublié, je pense,
d'ailleurs.
Oublié,
ouais, le Zune.
Vous vous souvenez du Zune ou pas?
Très honnêtement, je l'avais oublié, et en recherchant, je me suis dit, mais oui, bien sûr, ce truc, il y a 10 ans quand même, hein, ça fait 11 ans qu'il a été abandonné, donc c'était le concurrent de l'iPod.
Ouais.
Arrivé des années après l'iPod, ça n'a pas très, très bien fonctionné pour Microsoft, même s'il y avait des innovations qui étaient hyper intéressantes dedans, mais il était un peu moche. Il fonctionnait pas très très bien sur tous les aspects. Il arrivait après 5 générations d'iPod, c'était compliqué pour lui. Donc ce lecteur multimédia, puisque c'était ça, eh bien il a fait un four. Il a duré de 2006 à 2012.
Ouais.
Voilà. Donc ça
c'était
a été
un iPod moche en fait.
Ouais, c'était un iPod moche.
Mais il y avait des trucs, hein, du partage de chansons Wi-Fi, c'était pas bête. Il y avait plein d'idées.
Ouais, il y avait plein d'idées.
Ouais.
Il y avait des DRM. Alors là, c'était l'époque des DRM.
Ouais,
plein de trucs qui te permettaient. Enfin, tu pouvais te partager, mais de Zune à Zune. Enfin, c'était.
Et comme personne n'avait Zune, tu pouvais pas partager avec personne.
Parce que le Zune n'était même pas sorti en France. Hein. Il était resté aux États-Unis.
Ouais, absolument, absolument. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu presque un objet collector, en fait. Hein. Et d'ailleurs, en fait, Microsoft a joué un peu sur ce truc, c'est-à-dire qu'avec le côté nostalgie, parce que tout le monde s'est remis à parler du Zune sur les réseaux sociaux, du coup. Et donc, ils ont fait gagner, ils ont organisé un concours pour faire gagner un Zune.
C'est drôle.
En boîte, sous blister, etc.
Joli quand même, un doré un petit peu sympa.
Ouais, c'est ça, en plus.
Un peu plus sympa que celui qui était sorti.
Mais d'origine, hein, ils l'ont pas fabriqué pour. Et d'ailleurs,
bah,
c'est
tu sais,
rigolo parce
en avoir quelques-uns dans les cartons.
Je pense qu'ils
ont oui. Ils sont pas obligés de les détruire, ces trucs-là,
je
quand,
sais pas.
Quand ça marche pas.
Je sais pas.
Ils ont ça dans leur musée, forcément.
Ouais.
Et alors, et c'est rigolo parce qu'ils disaient on vous l'offre, mais on sait pas s'il marche.
Ouais, c'est ça. Même eux, ils ont une forme d'auto-dérision.
Enfin, ils ont Microsoft, ils disent on sait pas si ça va marcher.
Oui, alors, on peut leur concéder ça, ils ont beaucoup d'humour chez Microsoft.
Ouais. Et sur les produits, bon, là, ça va, c'est 10 ans après en même temps. Mais c'est vrai qu'ils admettent eux-mêmes que là, c'était une vraie erreur.
Ils ont dû perdre pas mal d'argent avec cette histoire-là, parce que au-delà de l'appareil, donc tout le hardware, concevoir un baladeur, etc., qui se voulait même presque plus perfectionné que l'iPod, hein, parce qu'il y avait des écrans couleurs à l'époque, enfin il y avait plein de trucs assez innovants. Derrière, Microsoft avait passé des accords avec toutes les majors, parce qu'en fait ils déroulaient toute la stratégie musicale avec leur iTunes, et donc ils ont dû dépenser des milliards dans ce machin-là.
C'est clair.
Après, Zune est devenu Xbox Music. voilà, ils ont quand même gardé la base pour construire leur service ultérieur.
Ouais, bon, enfin ça, Xbox ça Music, je ne savais même pas que ça existait. Ouais. Non, mais c'est
non,
vrai.
Mais c'est vrai. Mais Zune, je connais personne qui a possédé. Bah, tu me diras, comme ce n'est pas sorti en France, c'est assez logique, mais qui a possédé un Zune. Tu vois. C'est un peu en termes de console de jeu, ça me fait penser à la Lynx à l'époque. Tu avais la Game Boy, la Game Gear, ouais. Et tu avais la Lynx.
La Lynx, qui était au top. Censé, hein.
Et voilà, exactement.
Technologiquement, c'est pour moi ça j'avais un pote qui avait la Lynx, mais oui. Je bavais devant cette console.
Mais sauf que personne ne l'a acheté.
Donc
voilà, c'est comme quoi tu peux avoir un produit. Alors, ce qui est rigolo aussi, juste pour finir sur les Gardiens de la Galaxie, c'est la propension de cette saga à faire ressortir comme ça des...
Ouais.
Parce que tu avais la cassette audio, tout simplement, hein, qui était dans... et le Walkman, qui étaient les stars de la première épisode.
Mais oui, mais tu te rappelles, à la fin du deuxième épisode, le Walkman est cassé.
T'as spoilé.
Oh
ouais, tout le monde a eu le temps de le voir en même temps, normalement, les Gardiens de la Galaxie 2. Mais...
Passer aux unes, fallait quand même avoir envie. Hein.
Ouais,
il y avait
clair.
D'autres idées. Mais le Discman, qui est impossible à dire, c'était pas terrible pour aller sauver la planète. Ça saute trop. Ils étaient obligés de trouver un autre appareil un petit peu plus robuste.
Ça donne envie de regarder ces Gardiens de la Galaxie. C'est voilà, une bonne méthode aussi de communiquer un peu aux geeks par rapport à ce produit.
Petite Madeleine de Proust technologique.
Exactement. Laure, pour terminer... Rappelons que tu es chef de service mobilité au numérique, tu testes énormément de produits et tu voulais nous parler là d'une annonce. Nous, enfin moi j'adore Dyson, je trouve que c'est une boîte incroyable parce qu'ils font plein de trucs super top, des aspis, enfin plein de produits hyper design. James Dyson est un gars hyper visionnaire.
Leurs projets dans la robotique sont incroyables.
Ils avaient même un projet
l'Apple de la maison. Hein,
c'est ça, exactement.
Comme ça,
ils avaient même le projet de lancer une voiture, mais ils ont arrêté parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Et tu vas nous parler d'un nouveau produit que Dyson devrait sortir. C'est pas quand.
L'année prochaine. Mais c'est encore un petit peu vague.
C'est pas leur casque là de...
Le purificateur.
Le casque audio purificateur.
Je suis pas trop sûre de mon coup. Mais Dyson, on connaît pour les aspirateurs, bien sûr. Balek, tu vas passer chez toi. Ils ont aussi fait, il y a quelques années, un aspirateur robot qui n'avait pas trop marché. L'année prochaine, retour en force sur ce marché. Ils vont sortir leur aspirateur robot avec le joli nom de 360 VisNav. Voilà, je vous laisse le retenir. Mmh. Un aspirateur qui sera plus rond, mais en forme de dés, pour aller dans les coins à la maison, et qui sera truffé de capteurs avec une méga brosse qui fera toute la largeur de l'aspirateur, qui est censée attraper les saletés dans les tapis, les poussières, tout. Ça a l'air d'être super bien fait.
On a déjà des images, puisque alors, si vous êtes
on a
avec
des
nous,
images, voilà, ouais, tout à fait.
Voilà, ça c'est cool. Oui, il est un petit peu plus épais, on a l'impression que...
Alors, on n'a pas la hauteur exacte. Hein. Espérons qu'il passe bien sous les canapés et sous les meubles.
Bah, il ressemble vraiment au bas d'un aspirateur Dyson traditionnel, en fait.
Tout à fait. Il a la même brosse, mais en plus large. Ouais. Il a même un petit système qui va sortir sur les côtés pour aller attraper les saletés qui seraient sur les plinthes, des choses comme ça.
C'est dingue, hein, ce segment
on
des aspirateurs robots.
On t'a vu, il colore en bleu quand il passe.
Oui, ça, c'est fort. Oui, parce que c'est un aspirateur qui est aussi un peintre.
Oui, c'est ça.
Un aspi-peintre.
C'est avec sa brosse,
un
peu chiant. Tiens,
il répond à ta question. Ouais. Il est monté sans aucun problème, avec beaucoup de brio, ce petit tapis.
Ouais. Alors, il est censé plus épais chez moi, à mon avis. Plus puissant qu'un aspirateur habituel.
D'accord.
Alors, on testera. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas réellement. Et il a intérêt à l'être parce que son autonomie est annoncée à 50 minutes.
50 minutes.
Donc je ne sais pas si tu as un aspirateur robot qui se balade chez toi, mais c'est pas beaucoup 50 minutes pour un aspirateur robot qui en général prend son temps à faire ses allers-retours dans les pièces.
Pour mon 300 mètres carrés dans le premier arrondissement, c'est un peu limite.
Je me doute. Oui. T'en achèteras 2-3.
Voilà. Oui, voilà. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu peux en acheter 2-3. C'est cool. On n'a pas de prix.
Bien sûr que non. Le précédent il y a 8 ans coûtait 1000 euros. Donc ça nous donne quand même une petite idée du tarif à attendre qui sera sûrement élevé.
Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce segment de l'aspi robot qui prend de l'ampleur d'année en année, hein, parce qu'il y a plein de gens qui, au début c'est un gadget, mais maintenant ouais, il y a pas mal de marques qui se mettent là-dessus, Roomba, etc. Ouais. Il y a Samsung aussi qui est là-dessus.
iRobot.
Et Dyson doit se dire, on peut pas être à côté de ce marché-là, quoi. Il faut qu'on y soit. Et donc voilà, bah c'est bien. On va voir s'il y a d'innovation dans ce robot aspirateur qui devrait sortir donc l'année prochaine. Et bien voilà, tiens, juste une dernière petite info qui est tombée là aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, on n'a pas beaucoup parlé de ChatGPT, mais ChatGPT arrive sur iPhone.
Ouais.
Je ne sais pas si vous avez vu, c'est tombé cette nuit, je crois.
Il se passe des choses la nuit,
c'est incroyable. Ouais. Et donc, parce que cette appli n'est pas nouvelle, elle était déjà disponible aux États-Unis. Depuis quelques heures, donc, vous pouvez télécharger ChatGPT sur votre iPhone. et bénéficier de tous les services que vous aviez avant sur votre PC. C'est pas mal.
Génial. Bah, ça va encore doper l'adoption. On rappelle
et,
que c'est
et moi, tu vois, typiquement, avec l'iPhone, avec Siri, c'est-à-dire que maintenant, tu dictes tes trucs à ChatGPT, il te l'écrit.
Ouais, c'est ça.
Donc, la prochaine étape, c'est qu'il te parle. Exactement. Et puis voilà, là, on sera dans la quatrième dimension directement.
Ça va, ouais.
Ça va arriver, tout ça en plus.
Bien sûr.
Et c'est gratuit. Hein.
La version de base, j'imagine. Oui, après,
la version de base est gratuite. Voilà. Si vous voulez avoir après ChatGPT 4, là, il faut payer. Ouais. Bon, je crois que c'est $20 par mois.
Mais c'est-à-dire, ChatGPT 4 est vraiment, vraiment plus puissant que.
Et surtout, il est maintenant connecté.
Oui, à Internet. Ouais.
Donc, tu peux lui demander des trucs très récents. Merci beaucoup Laure, c'était un plaisir de t'accueillir dans De quoi je mêle.
Merci à toi, merci
à vous deux. Tu es maintenant chez toi, tu viens quand tu veux. Chef de service mobilité au numérique et merci beaucoup Anthony.
Bah, merci à tous les deux.
On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Et vous restez avec nous dans un instant la suite de quoi je mêle. Petite séquence nostalgie. Est-ce que tu as
avec
déjà eu un Galaxy Non, un Galaxy S. Tu as déjà eu un Galaxy S Samsung?
Ouais, ça m'est arrivé, ouais, absolument. J'ai déjà eu un Galaxy.
Belle saga quand même.
Ah, mais c'est une très belle saga.
Qui a permis à Samsung de gagner ses lettres de noblesse dans le domaine du smartphone. Eh bien, Christophe Joly va tout nous expliquer dans un instant. Deuxième partie de De quoi je me mêle. A tout de suite, merci de nous suivre.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, le retour de quoi je me mêle, notre deuxième partie avec Christophe Joly que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Bonjour Christophe.
Bonjour François.
Notre rendez-vous nostalgique dans De quoi je me mêle. Christophe qui ouvre les vieux livres poussiéreux de la tech.
Pas trop poussiéreux celui-ci, un peu moins que les précédents.
Et voilà, on se plonge un petit peu dans l'histoire de certains produits emblématiques. Alors on a parlé de l'iPad, on a parlé de plein de produits.
Du premier smartphone, baladeur MP3, voilà. De Aibo. Le robot chien de Sony.
Le robot de chez Sony.
Il y a quantité d'autres produits dont on pourra parler.
C'est vrai, c'est ça qui est cool. Moi j'adore se replonger comme ça dans l'histoire de la tech.
Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est intéressant.
Et là, on va s'arrêter en 2009.
En 2009, on va parler du Galaxy S, le Samsung Galaxy S, dont le nom était GTI 9000, mais on va parler sous le nom de Galaxy S. En 2000, on avait parlé du premier lancement du premier smartphone sous la marque Ericsson, le R380. Donc là, on est un peu plus tard, puisqu'on est en 2010. En 2009-2010, la loi Hadopi contre le piratage musical, à un an. WhatsApp à un an, l'iPad vient d'être lancé, on en a parlé dans un numéro récent, Instagram n'existe pas encore, Windows Phone sera lancé à l'automne de la même année, et l'iPhone a été lancé 3 ans plus tôt, donc quand Samsung lance son Galaxy, l'iPhone en est déjà à sa 4e génération.
Ouais.
Donc c'est-à-dire que Samsung est quand même arrivé un peu tard sur le marché des smartphones.
C'est intéressant parce que, enfin, il y avait déjà des smartphones Samsung auparavant, mais qui étaient moins perfectionné et moins identifié. Enfin, il y avait moins de marketing à l'époque.
C'est ça.
Mais pour se remettre dans le contexte, c'était la bataille des OS. Parce que Windows allait sortir son téléphone, il y avait Android, il y avait iOS.
Il y avait Symbian.
Et
justement, je te fais un petit point sur le marché de la téléphonie en 2009. Il s'était vendu 1,2 milliard de téléphones, dont 172 millions de smartphones. Ça, c'est une source Gartner de l'époque. Quel est le podium, à ton avis, des OS? Parce que tu l'as dit, c'est ça. Le 1, 2, 3.
En 2009.
En 2009.
Je dirais que Nokia était pas mal placé quand même, encore à l'époque.
Ils étaient à 39% avec Symbian. Ensuite, le deuxième. Tu n'as pas le droit de regarder les notes.
Ah ouais, j'ai regardé, maintenant je sais. Vas-y, déroule.
C'est BlackBerry. C'est RIM, presque 20% de marché, part de marché, donc c'est quand même énorme.
C'était la grande époque des BlackBerry.
Et le troisième, c'était Apple avec 14,4% et Samsung était à 3,3% du marché. Et c'est cette année-là que Palm Pilote s'arrête définitivement. Je ne sais pas si tu te rappelles des Palm avec le stylet. En 2010, je donne les deux années parce que c'est important, on passe à 1,6 milliard de téléphones vendus, donc 300 millions de smartphones.
Donc on quasi double.
Ouais, 74% d'augmentation, donc c'est beaucoup. Nokia est toujours premier, mais avec 33%, il perd 3% de part de marché. RIM, donc BlackBerry, est à 16%, il perd également 3%. Et Apple est en croissance à 15,7%. Et Samsung est à 7,6% en 2010. Donc il commence déjà à monter. Sony Ericsson, Davis, Motorola également. Avant d'adopter Android et pouvoir se redévelopper sur les Android, et les marques chinoises n'existent pas encore sur les marchés.
Et donc on peut dire que le Galaxy S était vraiment le premier, la gamme très agressive chez Samsung de smartphones pour concurrencer Apple. On est d'accord.
C'est clair. Et on en parlera tout à l'heure. C'était l'occasion d'une guerre des brevets pendant 7 ans entre Samsung et Apple. Apple attaquant Samsung, lui reprochant de l'avoir copié tout bêtement. On est le 4 juin 2010 quand Samsung lance son Galaxy S. Dans les grandes lignes, il mesure 12 cm de haut, 64 mm de large et un peu moins d'un centimètre d'épaisseur, ce qui est vraiment très fin à l'époque. Hein. C'est vraiment pas mal. Et il pèse 119 grammes, donc il est assez léger. Il est 3G+, Wi-Fi, Bluetooth, un écran multi-touch 4 pouces, un processeur assez puissant qui avait été apprécié par ceux qui l'avaient testé. L'avantage, c'est qu'il avait une carte mémoire SD qu'on pouvait insérer dedans, à l'inverse de l'iPhone qui ne le rendait pas possible.
On pouvait enlever la coque en plastique à l'arrière à l'époque.
Voilà. Hein. Il avait un capteur 5 mégapixels, une batterie de 1500 mAh. Rends-toi compte, 1500 mAh par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est quand même pas beaucoup. On pouvait tenir à peu près une journée et demie, sans trop utiliser le web. Il avait une interface TouchWiz qui reproduisait l'interface d'Apple. C'était l'un des objets du procès intenté par Apple. Est-ce que tu te rappelles du clavier Swipe ? S-W-I-P-E.
C'était le truc où tu suivais les lettres.
C'était assez bluffant.
Dirigeais, ouais,
ça marchait plutôt bien. Super moi, je m'en bien. Servais. Ouais. Le peu de temps que j'ai eu un Samsung Galaxy, je m'en suis servi. Je trouvais ça convaincant. Et je donne le niveau de DAS parce que c'est important. Et on commençait à se préoccuper des émissions de DAS. On est à 0,24. Et là, Samsung était très bien positionné.
Si vous êtes avec nous en vidéo, il y a JD qui nous ressort les images de la chaîne techno de l'époque en 2010, les gars.
Je suis désolé,
avec
c'est moi qui ai mis le lien.
Jérôme, je suis moi-même. On n'a pas changé.
Non.
On n'a pas changé.
Du tout.
Enfin voilà.
Le prix.
Merci JD, c'est sympa.
Et à ton avis, est-ce que tu te rappelles du prix du Samsung ? Il était vendu 500 € hors abonnement.
D'accord.
Donc il était assez bien positionné par rapport
très
à l'iPhone.
Agressif,
Et il coûte entre 0 et 150 € associé à un forfait. En tout, Samsung en a vendu 24 millions en un peu moins de 3 ans.
En face, concurrence.
HTC Desire. Google Nexus One, sachant que Samsung a produit un Nexus en 2011 pour le compte de Google, avant que Google ne reprenne à son compte la fabrication des smartphones. Le concurrent frontal, tu l'as dit, c'est l'iPhone 4, qui a été lancé au même moment. L'iPhone, de son côté, c'est le premier modèle composé de métal et de verre, avec un design carré, un dos aplati. Les précédents iPhones avaient des dos arrondis, si tu te souviens. Les specs sont à peu près identiques. Il était plus lourd. Il pesait 137 grammes.
Il était très beau, l'iPhone 4. Très joli.
Il était très joli.
Design, ouais.
Moins haut, moins large, plus fin, plus lourd que le Samsung en clair. La définition de l'écran était deux fois supérieure à celui du Samsung. La batterie était analogue à 1400 mAh. Le niveau de DAS, c'est pour ça que j'en parle, on est à 0,93 et Apple n'a jamais été très bon sur les niveaux d'émission, à l'inverse de Samsung. Si ce n'est que Samsung n'a pas progressé, au contraire. Et hors abonnement, il était à 629 €.
Oui, donc, on était
relativement plus cher.
Ouais, on était déjà dans des prix plus importants.
Là où on a commencé la guerre des brevets.
Ouais, guerre des brevets.
Je vais t'en dire un petit mot. On est en avril 2011 et ça va durer jusqu'en juin 2018. Apple reproche à Samsung d'avoir copié les coins arrondis sur un boîtier rectangulaire. Reproche l'interface de navigation, TouchWiz dont je parlais tout à l'heure. Il reproche le zoom avec un double clic sur l'écran. Et puis également le rebond quand on allait en bas d'une page. Le fait que la page remonte automatiquement. Il faut savoir qu'ils ont engagé 30 procédures dans 8 pays, dont la France, les États-Unis, la Corée du Sud et quantité d'autres pays. C'est allé jusqu'à la Cour suprême des États-Unis.
Oui, bien sûr.
C'est quand même pas anodin.
Et après, il y a eu un accord, malgré tout, financier entre les deux parties.
Qui n'a jamais été dévoilé.
Non.
En fait, Samsung a été condamné dans un premier temps à payer 1 milliard de dollars à Apple. Ils ont fait appel, évidemment. La condamnation a été ramenée à 539 millions. Finalement, ils ont trouvé un accord en juin 2018.
Ouais.
Mais on n'a pas le contenu.
Mais c'est vrai que c'était une saga judiciaire qui a été terrible, cette histoire-là.
Et une petite insiste sur l'iPhone 4. Est-ce que tu te rappelles du Bumpers ?
Mais bien sûr. Quelle histoire, cette...
Quelle histoire ?
Ouais.
En fait, en
l'Antenna Gate, c'était ça.
Ouais, carrément. Et ça a coûté cher à Apple, cher. Pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, l'iPhone 4, l'antenne de l'iPhone 4 était mal positionnée. Du coup, quand vous appeliez, quand il était à l'oreille, ça captait moins bien. C'est quand même un comble pour un.
Mais moi, je me souviens parce qu'on avait vécu ça. Il suffisait que tu tiennes l'iPhone 4 entre les mains comme ça, assez fort, et tu perdais le réseau.
Voilà,
en fait.
Ce qui est quand même ubuesque pour un téléphone.
Un truc de dingue.
C'est quand même embêtant.
Et donc, Steve Jobs avait été obligé de refaire une keynote un peu en urgence pour expliquer qu'il offrait des bumpers
à
tous ceux qui avaient acheté un iPhone 4.
Et c'est assez rigolo parce que je suis retourné sur le CP de l'époque, le communiqué de presse, c'était offrez un bumper à votre iPhone 4. Donc, il présente ça comme un accessoire plutôt cool. On pouvait le choisir blanc, noir, bleu, vert, orange ou rose. Et faisant presque un accessoire de mode, entre guillemets, les bumpers donneront une touche de style à tout iPhone 4. J'adore. Ça a quand même coûté 175 millions d'euros à Apple.
Oui, bon.
Voilà, c'est une paille pour Apple.
Ils ont eu d'autres problèmes après, hein. Plus tard, je sais pas si tu te souviens, les iPhones que tu pouvais casser en fait,
ouais, qui tenaient pas,
qui se pliaient,
fallait pas les mettre dans la poche du jean arrière. Ça se passait pas très très bien.
Bon alors les médias, qu'est-ce qu'ils en pensaient de ce Galaxy
S? Eh bien, je suis allé sur mon site préféré en matière de tech, 01net.
On les salue, nos amis de 01net d'ailleurs.
Ils en disaient beaucoup de bien globalement. L'écran était salué pour sa qualité de définition, pour la luminosité, la puissance du processeur. C'était un Cortex A8 à 1 GHz. Ça ferait plaisir à ceux qui aiment les specs. Il enregistrait la vidéo en HD. Il était fin, comme on l'a dit. La surcouche TouchWiz était vraiment appréciable, sans égaler l'iPhone, selon 01net. L'autonomie était correcte. Le guidage vocal GPS gratuit via Google, ce qui à l'époque était assez nouveau. Il faut savoir qu'à l'époque, pour avoir un GPS, c'était payant. Hein. Et le local proposé, mais
oui, c'était
payant.
Oui, c'était TomTom, des trucs comme ça. Ouais. Hein.
Donc la gratuité était assez nouvelle. Ça marchait moyennement bien. Donc, pas toujours très très bien, mais ça fonctionnait quand même. Ça avait le mérite d'exister, on va dire. Et il lisait les fichiers DivX et XVD sans réencodage. Et ça, c'était quand même pas mal. On lui reprochait un design trop proche de l'iPhone, une finition trop plastique, pas de flash pour les photos, le navigateur web qui ne lisait pas le flash non plus. La note était de 2,8 sur 5.
Ouais, 2,8 sur 5, quoi. C'était pas exceptionnel,
C'était pas exceptionnel, mais c'était quand même pas mal. Les utilisateurs, en revanche, eux, sont fans. Alors, pour le coup, ils adorent. Ils ont adoré. J'ai pris le... Ils ont la note de 4,5 sur 5 sur 6000 avis sur le site à la test. L'ergonomie, l'écran, les performances et le design sont vraiment, vraiment top. Ce qui est reproché, c'est la batterie, la fiabilité mais avec un tout petit scoring et la construction. Et en fait, la connexion avec un PC était un peu pénible. Il fallait brancher un câble et tout. Ouais, ça ne marchait pas toujours. Ils reprochaient la copie du TouchWiz, de l'écran. Je pense que Samsung aurait pu faire mieux que copier l'iPhone. Et la gestion du copier-coller sous Android était pas top, visiblement. Moi, je ne m'en rappelle pas. Et ça fait partie des choses qui étaient reprochées. Aujourd'hui, rapidement, en 2022,
donc,
il s'est vendu...
13 ans plus tard, quoi.
13 ans plus tard, il s'est vendu 1,2 milliard de smartphones. Donc, quasi que des smartphones, évidemment. Le marché est en baisse néanmoins, quasi 12%. Et sur le podium, on a Samsung avec 21,6% de part de marché.
Qui a réussi quand même son histoire.
Ouais, clairement. Apple est second, désormais, à 18,8 et Xiaomi est à 12,7.
Ouais, des acteurs qui n'existaient pas à l'époque.
Xiaomi,
Oppo, Vivo, les trois derniers, en fait, n'existaient pas.
Non, n'existaient pas. Et Galaxy est quand même devenu une famille. Donc désormais, il y a le Note, qui est sorti en 2011. Je ne sais pas si tu te souviens du Note 7.
Ouais. Qui avait ça a été un sacré scandale. Hein, quand même.
Oui, qui explosait en fait. Les batteries surchauffées. On a su ce pourquoi ces batteries surchauffées, c'est qu'il n'y avait pas assez de place pour la batterie dans la coque.
Et donc la batterie était stressée en fait, quand il faisait trop chaud, et elle explosait.
Et si tu te souviens, on avait interdiction aux États-Unis de prendre l'avion en possession d'un Note, et l'amende était salée. Il fallait vraiment les autorités de régulation
américaines. Je me souviens d'avoir pris des avions Air France où ils disaient, si vous avez un Galaxy Samsung Note 7, veuillez avertir l'équipage, quoi.
C'était
un truc de dingue.
Il fallait le laisser éteindre.
C'était une mauvaise pub.
Ah oui, c'est clair. Ils en ont rappelé 2 500 000 exemplaires. Ils l'ont vendu pendant 2 mois seulement. Et ça a coûté, en capitalisation boursière, l'équivalent de 20 milliards d'euros à Samsung. Donc c'est quand même extrêmement important.
Je trouve qu'ils s'en sont bien sortis quand même. Ils ont souffert de ce truc-là, mais ça n'a pas joué sur la qualité de leurs produits.
Non, c'est vrai.
Ça n'a pas été fatal, en fait.
Non, parce qu'ils ont réagi très vite. C'était lancé en août, arrêté en octobre. Et puis, il y a le Fold, qui sont plus récents, évidemment, qui est sorti en septembre 2019. C'est le premier smartphone pliable. À l'époque où ça avait été présenté sous forme de proto, c'était quand même assez novateur. Et désormais, il y a le Flip, qui est sorti en février, qui est, lui, le téléphone à clapet, à écran pliable également. Donc, le Galaxy est devenu une famille qui, désormais, s'est imposée dans le secteur du haut de gamme. Et le concurrent frontal est plus que jamais l'iPhone, iPhone 14 versus le Galaxy S23. Mmh. Alors là, c'est quasi un copier-coller. Les prix sont quasi identiques, 959 euros pour le Samsung, 1019 euros pour l'iPhone 14. Je prends l'entrée de gamme à chaque fois.
Ouais, il y a 10 ans, tu te rappelles, c'était on était dans les 500-600 euros. Là,
ouais,
on est passé à 1000 euros.
L'inflation
est assez forte, bien évidemment.
Mais donc, quantité de marché, quantité de produits. Mais là, pour le coup, ils sont vraiment très très proches. Ils pèsent le même poids. Ils ont la même taille, les écrans sont de même taille, la définition de l'iPhone est un peu supérieure, le stockage c'est analogue, sauf qu'avec l'iPhone vous avez plus de stockage, jusqu'à 512 Go, la RAM c'est 8 Go pour Samsung, c'est 4 Go pour l'iPhone, la batterie est la même, 3009-3002, bon, non pas tout à fait la même, et le DAS est le même, 0,96 pour Samsung, là ils ont fait moins bon qu'il y a 10 ans, et 0,94.
Ah oui, et c'est Apple qui fait mieux en fait que...
Moins mal, moins mauvais.
Moins mal, ouais.
Parce que là, pour le coup, 0,94, c'est...
Ça commence à faire beaucoup.
Ouais.
Bon, et bien voilà, cette petite saga des Samsung.
Bah oui, non, je crois que j'ai tout dit.
T'as tout dit.
Oh bah oui.
Bah, on attend maintenant le prochain Fold.
Bah, le S24, qui... voilà, les prochaines évolutions. Voilà. Les retours que j'ai des téléphones clients, c'est que la fiabilité n'est pas encore complètement là, visiblement.
Ouais, c'est vrai, mais ça commence un petit peu à bouger. T'as vu, il y a Google qui sort un smartphone pliant aussi, donc ça prouve que...
Et ensuite, il va falloir les amincir. Ouais. Quand ils sont pliés, ils sont un peu épais.
Eh bien voilà. Merci beaucoup Christophe.
Merci
pour cette plongée dans la nostalgie de la tech avec la saga des galaxies.
Toujours un plaisir.
Ben, pareil. Merci Christophe Joly.
Merci.
Et ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Bien sûr, on a été très heureux de passer cette petite heure en votre compagnie, à la fois sur l'appli RMC BFM Play, je vous rappelle, sur YouTube aussi. Vous pouvez retrouver les deux parties de Quoi Je Me Mêle distinctes. Et puis en podcast, là vous avez votre fichier entier avec vos 52 minutes de tech. Et bien évidemment aussi, on est là le week-end sur BFM Business, le samedi et le dimanche à la radio, à la télé. Portez-vous bien, rendez-vous la semaine prochaine. Et à très vite, bien sûr.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.